expliquer. Décrypter. Convaincre.
Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver pour Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter qui fête la rentrée dans tous les sons et dans tous les sens, là où ça se passe et là où ça guinche.
En direct du studio 511, une émission réalisée avec brio par Jérôme Chélius, assisté de June Loper, avec à la technique aujourd'hui Ronan Mahé.
Cette semaine, c'est la fête. Au MEDEF, avec patrons et ministres, pour célébrer les 20 ans de l'organisation patronale, mais l'économiste Thomas Porcher sera là pour décrypter le programme des festivités. À Uzest aussi, pour la 41e Esteyada de la Sarthe, avec hommage à Yvette Horner, la reine du piano à bretelles, décryptage lacanien par Bernard Lubat à la clé.
Ah, on m'entend? Oui, bonjour, bonjour à tous.
Voilà la définition du mot divertissement. Toute tentative en vue de détruire l'attention de l'esprit.
C'est un gâteau d'anniversaire pour célébrer les 20 ans du MEDEF.
Des problèmes posés par la condition humaine.
Je dois découper un gâteau, mais il y a plein de gâteaux, je ne sais pas lequel je dois découper.
Ah, c'est pas mal, quoi.
D'accord, donc je coupe devant tout le monde. Hop.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Cinquième saison pour Comme un bruit qui court, à faire courir le bruit de la contestation. Porter les voix de ceux qui luttent, de ceux que l'on n'entend pas ou peu, des dissidents de la pensée dominante, de ceux qui pensent et créent des alternatives. Aux antipodes du divertissement, le bruit qui court est donc toujours sérieux.
Tout en essayant quand même de ne pas trop se prendre au sérieux.
Et sur France Inter, la rentrée a commencé sur les chapeaux de roue, avec l'annonce en direct de la démission de Nicolas Hulot. Fini l'écologie de façade au gouvernement, make the planet great again et rentrer dans le placard.
Le business as usual a repris le dessus dans la Startup Nation.
Qui ressemble tout de même plus, pour beaucoup, à une closed-down nation. Emploi, industrie, petite ville à l'abandon, le train du succès et de la réussite ne s'arrête plus chez ceux d'en bas. Une rentrée aussi où les manifestations xénophobes agitent l'Allemagne, pourtant fer de lance de l'Europe, sur fond de slogan « Nous sommes le peuple ». Une extrême droite violente qui ressurgit partout et qui sera devant les tribunaux la semaine prochaine pour l'ouverture du procès des meurtriers présumés de Clément Méric. Alors pour ne pas se laisser abattre, Comme un bruit vous propose de prolonger un peu l'été, du côté d'Uzest en Gironde, à la rencontre d'une grande dame, très connue et pourtant mal connue, Antoine.
Yvette Horner, reine du Musette et du Tour de France, qui nous a quittés le 11 juin dernier. Et on va lui rendre hommage depuis le festival d'Uzest et sa radio Uz à Yvette, celle qui disait que la réverbe, c'est le rouge à lèvres de l'accordéon. Ah, c'est beau, Charlotte.
Et il n'y a pas qu'à Uzès que l'on fait la fête au MEDEF aussi avec les patrons, mais là, il n'y aura pas d'accordéon, Give.
Oui, mais c'est quand même devenu le coup d'envoi de toutes les rentrées politiques et sociales. La grand-messe des premiers de cordée et un marronnier journalistique. L'université d'été du MEDEF donne le la des politiques économiques, raison de plus de s'y retrouver cette année alors qu'elle fête ses 20 ans. 20 ans pendant lesquels ses patrons successifs, dont le nouveau, Geoffroy Roux de Bézieux, n'ont eu de cesse de répéter à des ministres toujours plus nombreux les prescriptions des entrepreneurs. Et c'est vrai que même si on se retenait de trop crier victoire cette semaine, beaucoup de patrons avaient du mal à cacher leur satisfaction, maintenant qu'une grande partie de leurs vieilles revendications sont devenues des lois. Et à les entendre, ce n'est toujours pas assez. C'est pourquoi nous sommes aussi allés retrouver l'économiste atterré Thomas Porcher, dont le traité d'économie hérétique chez Fayard est devenu un succès de librairie, qui insiste sur la profonde orthodoxie des politiques de la Startup Nation, et qui nous explique pourquoi aujourd'hui, les grands patrons dansent sur un volcan.
Comme un bruit qui court, fait sa rentrée jusque 17h avec Yvette Horner, la reine du bal populaire, et aussi avec les patrons, mais là, sans flonflon.
Il y a 4 ans, le Premier ministre était venu nous dire qu'il aimait l'entreprise. Vous vous souvenez? Il est reparti sous les vivants, mais les mesures n'avaient pas suivi. Monsieur le Premier ministre, nous préférons les preuves d'amour aux déclarations d'amour.
Un amour contre nature qui, depuis 2012, s'exhibe à la fin de l'été. Ministre de gauche et patron se retrouve à l'université du MEDEF.
L'entreprise tient justement à l'honneur pendant 2 jours, donc à l'université d'été du MEDEF, à Julien Josas, bien sûr.
La grande messe du patronat.
Des patrons français qui se mettent
en 2014, le Premier ministre Manuel Valls déclare sa flamme.
Et moi, j'aime l'entreprise. J'aime l'entreprise.
En 2015, c'est au tour du ministre de l'économie, Emmanuel Macron, de faire les yeux doux au patron.
Vous avez l'amour, mais vous avez les preuves d'amour.
Il est au
change, la forme change, le discours change.
Il y a quelque chose qu'il faut changer ici, et je crois qu'il va falloir faire preuve d'audace.
Notre pays a besoin de ses entreprises et de ses entrepreneurs.
En vous disant que j'aimais l'entreprise, c'est cet engagement que je vous demande désormais d'accomplir.
Nous avons besoin en Europe d'une France forte.
La reprise, elle passe par l'entreprise et par les entrepreneurs. Je veux, ensemble, que nous prenions aujourd'hui tous les risques.
Une édition un peu exceptionnelle.
Vivoustine,
Charles Péron,
Antoine Charles.
Célébrons 20 ans du MEDEF.
T'as pour entendu comme un bruit ?
Et c'est l'occasion pour moi de saluer le fondateur du MEDEF, Ernest-Antoine Seyer, que je vous demande d'applaudir.
Monsieur Seyer, bonjour.
Oui, j'ai eu un message comme quoi vous étiez là, et donc j'ai pas de raison de ne pas m'entretenir avec un journaliste qui trouve encore intérêt.
J'ai voulu vous voir,
Ernest-Antoine Seyer, puisque vous vous êtes fait applaudir aujourd'hui pour ce 20e anniversaire par toute l'assemblée des entrepreneurs et militants du MEDEF réunis aujourd'hui. Vous avez été applaudi, donc ne dites pas que vous êtes oublié.
Ça m'a fait grand plaisir, en effet, de me retrouver ici. Il y a 20 ans, nous avons eu l'idée de réinsérer l'entreprise au cœur de la société française. Et donc ça a fait son chemin. Le MEDEF est devenu, en effet, l'emblème de la réunion des chefs d'entreprise, des entrepreneurs dans notre pays.
Parce que patronat, ça sonnait un peu ancien, ça sonnait un peu lutte des classes, non ?
Oui, il y a 20 ans, le Conseil national du patronat français, CNPF, vous avez raison, c'est comme ça que ça s'appelait, méritait en effet de changer de nom, et on l'a appelé le mouvement plutôt que conseil, et entrepreneur plutôt que patron, patronat. Oui, mais patronat a été formé d'ailleurs sémantiquement comme une réponse à syndicat. C'était une création du mot pour répondre en effet au syndicat. Il y avait en effet un peu de l'idée de confrontation, et chez l'entrepreneur, il y a au contraire l'idée que l'entreprise, ce sont trois visages côte à côte qui sont les salariés, les dirigeants et les actionnaires.
Chers camarades, chers collègues,
je continuerai à faire ce pour quoi vous m'avez élu.
Merci d'avoir répondu à l'appel de l'interfédérale CGT, UNSA, Sud et CFDT.
Parmi les grandes réformes déjà réalisées depuis un an, la moralisation de la vie publique, la loi travail,
et puis dans les tuyaux, bien sûr, retraite, assurance chômage,
ou encore les premiers effets de la réforme fiscale. La fin de l'ISF, la baisse des cotisations salariales.
Après le code du travail, la SNCF, la formation professionnelle, les prisons, le bac, j'en oublie forcément.
Et la hausse de la CSG.
Ce sont maintenant les privatisations qui sont à l'ordre du jour, tout s'enchaîne, ça va extrêmement vite.
Quitte à le faire au pas de charge et parfois par ordonnance.
C'est une stratégie.
Emmanuel Macron veut bousculer.
Ça en dit long sur le regard du président vis-à-vis des partenaires sociaux. C'est simple, Emmanuel Macron a ubérisé les syndicats.
C'est une stratégie.
Chers camarades, chers collègues,
Ernest-Antoine Seyer, votre agenda, comme on dit maintenant, votre agenda a été écouté.
Il y a en effet une vingtaine d'années, on a dessiné un programme économique et social, on a appelé ça d'ailleurs la refondation sociale à l'époque, qui était en très grande ligne, je dirais, ce que l'on entend aujourd'hui. Il a fallu 20 ans, je dirais, pour faire émerger quelques idées simples. Et je vois enfin actuellement, en effet, se mettre en place quelque chose qui indique qu'on peut peut-être, en effet, commencer à avancer dans la bonne direction. J'ai vu, en fait, la gauche au pouvoir...
C'est la semaine des 35 heures.
...qui, si j'ose dire, avait plutôt tendance à avancer dans la mauvaise direction.
Travailler moins pour travailler tous.
J'ai vu la droite au pouvoir...
C'est travailler plus pour gagner plus.
...qui avait, pour règle générale, comme comportement... de reculer dans la bonne direction.
Pour gagner plus, pas pour gagner moins.
Je crois qu'actuellement, on est en train d'essayer de voir ce qui marche.
C'est cela, l'esprit start-up. Il est indispensable de développer ce venture capital. Nous devons devenir la nation des start-up.
I want France to be a start-up nation. To put it in one word, entrepreneur is a new France. Thanks a lot. Merci pour votre attention.
Chers amis, nous devons maintenant nous saisir de ces réformes pour les utiliser à plein. C'est notre responsabilité.
Est-ce que vous pouvez parler d'idéologie ? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut dire, quand on voit l'état des syndicats, quand on voit la majorité qu'a le gouvernement avec son programme, que cette bataille idéologique a été gagnée ?
Je pense qu'on n'a pas gagné de bataille idéologique, mais je pense qu'on a atténué la puissance de la bataille idéologique d'hier. Il subsiste des différences fondamentales dans la manière de voir la société, son organisation, son efficacité, bien sûr. Mais il y a actuellement un effort, je crois, méritoire de la part de chacun pour essayer de se parler, de se comprendre et de faire progresser la société française. En tout cas, c'est mon espoir.
Oui. Alors, dernière question. Juste une petite question. Il y a des manifestants qui sont prévus de venir, comme à peu près chaque fois, pour protester. Que bien sûr, je joue comme beaucoup de police, donc je ne m'inquiète pas trop pour la tenue de l'université d'été du MEDEF, mais qui appellent, leur slogan, c'est « séparation du MEDEF et de l'État ».
Non, mais enfin, si vous voulez, les mesures prises une à une, bien entendu, peuvent susciter des polémiques, mais la direction générale de l'effort, elle est quand même, en effet, et je pense qu'il y a énormément de Français s'y sont finalement raccrochés, puisqu'ils ont élu un président, une majorité pour la conduire, c'est d'essayer de faire en sorte, en effet, que l'efficacité soit démontrée, car elle est en effet la mère de la réussite, et donc la mère, j'y reviens, de la solidarité, qui est une des règles générales fortes de notre pays et de la démocratie française.
C'est-à-dire
que quand on crée de la richesse, il y a une part, bien entendu, qui va à ceux qui l'ont initiée, mais une part qui se redistribue au profit, en effet, de la solidarité avec ceux qui sont les plus faibles dans la société.
Vous ne seriez pas en train de devenir socialiste, Ernest-Antoine Seilliard, rassurez-moi.
Non, mais libéral-démocrate, social-démocrate, tous ces adjectifs aujourd'hui se nuancent pour faire progresser la société française.
Merci beaucoup.
Oui.
L'homme aussi mérite qu'on dégage l'aspect positif de son action, Ernest-Antoine Seilliard. Il aura fait de grandes choses, regardez.
Mes amis, ce soir, mon mandat prend fin. Après cette année passée à la tête du MEDEF, quelqu'un va me remplacer. J'aimerais qu'il poursuive mon action et qu'il fasse encore plus pour les entreprises que ce que je n'ai fait moi-même. Tenez, c'est pour vous, monsieur le président.
Pour moi ? Qu'est-ce que c'est ?
Une liste. Celle de tous les emplois qui ont été supprimés ces 7 dernières années, grâce à vous.
Grand Dieu. Da Silva Véronique, ouvrière chez Metal Europe. David Martin, cadre chez Alcatel. De Abel Bruno, agent de maîtrise chez Alstom. Oh, j'aurais pu en supprimer plus. Si j'avais empêché les 35 heures, c'était peut-être 200 000 personnes de plus au chômage.
Non, grâce à vous, les profits et les salaires des dirigeants n'ont jamais été aussi élevés. Oh, c'est déjà beau.
La liste de Seilliard. L'histoire vraie d'un homme qui a libéré plus de 300 000 personnes de leur emploi.
Je n'en ai pas fait assez. Je n'en ai pas fait assez.
Alors cette université d'été, c'est vraiment une opportunité formidable de nous pencher ensemble, durant 2 jours, sur toutes ces questions. À se projeter dans l'avenir. Pour être un MEDEF de proposition, c'est le rôle que je veux donner aujourd'hui au MEDEF.
Il est grand temps, chers amis, il est grand temps que tout l'écosystème du pays se mette au service des entrepreneurs. Car ce sont eux qui prennent tous les risques. Qui change le monde ? Ce sont les entrepreneurs. C'est vous, c'est nous. Et avec une ligne rouge, celle de ne pas alourdir les charges des entreprises. Oui, d'habitude, on applaudit.
Thomas Porcher, bonjour.
Bonjour.
Je vous retrouve dans les bureaux de la Paris School of Business.
C'est ça, oui. Je suis membre des économistes atterrés.
Et on vous avait rencontré à l'occasion de la sortie de votre traité d'économie hérétique chez Fayard, dont le succès ne s'est pas démenti, puisque je crois que c'en est à la 6e réédition.
C'est ça, honorable. Ouais, très honorable.
Ouais. Comment en finir avec le discours dominant ? Et c'est pour ça que je suis venu vous voir, Thomas Porcher. Est-ce que je reviens tout juste de l'université d'été du MEDEF qui fêtait cette année ses 20 ans ? Tout le monde y était content, tout le monde, lumière y était assez combative et gagnante, parce que voilà, depuis 20 ans, j'ai l'impression que toutes leurs demandes ont été, à peu de choses près, reçues, appliquées et mises en œuvre par les gouvernements successifs.
Oui, c'est vrai. Et là, on a été encore plus loin avec la loi travail et la loi XXL travail qui a été mise sous Macron, où on a inversé la hiérarchie des normes, c'est-à-dire qu'on peut décider aujourd'hui du temps de travail, du salaire au sein de l'entreprise, qu'on a mis en place le référendum pour contourner les syndicats majoritaires. Aujourd'hui, il suffit qu'il y ait 30% des syndicats minoritaires pour qu'on puisse passer des questions sous forme de référendum. Et puis, on a mis ensuite la grille des indemnités prud'homales à payer pour que les entrepreneurs puissent connaître quel est le coût finalement de la violation du droit du travail et ce qu'ils risquent quand ils licencient des gens. Donc toutes ces réformes ont été faites en faveur du patronat contre les salariés. Et je veux dire, on vous dit toujours que les Français n'ont pas très bien compris ce qu'il y avait dans la loi travail, qu'ils n'ont pas lu, que c'est compliqué, etc. Qu'il y a encore un effort de pédagogie à faire, mais il suffit d'être un petit peu lucide. Si vous n'avez pas lu les textes, vous avez très bien compris que l'arbitrage s'est fait en faveur du patronat et pas des travailleurs.
Après 3 mois de blocage, la grève unitaire et saute-mouton à la SNCF prend fin ce jeudi. Une fin sans gloire pour les syndicats et le mouvement social qui n'ont pas su se renouveler. Les objets de mécontentement étaient pourtant nombreux, chronique d'un échec.
Et Macron a conscience de cela. Les syndicats aujourd'hui, ils ne représentent plus rien.
Mais justement, monsieur Ernest-Antoine Sellière, eh ben, à peu de choses près, il disait « nous avons gagné la bataille idéologique ».
Ben oui, ils l'ont gagné puisque complètement. Regardez ce qui s'est passé, c'est que on a fait que baisser la fiscalité sur les entreprises. Et puis vous avez toutes les lois successives sur la protection de l'emploi, hein, 17 réformes sur la protection, la seule protection de l'emploi entre 2000 et 2013, qui font qu'aujourd'hui, quand on regarde l'indice de protection de l'OCDE, un travailleur français est au coude à coude en termes de protection avec un Coréen du Sud. Donc on ne peut pas dire qu'on soit ultra protégé. Donc voilà, ils ont gagné successivement ces batailles en faisant entendre qu'ils allaient recruter des gens si on leur donnait plus de flexibilité, ils allaient recruter des gens s'ils pouvaient licencier plus rapidement, ils allaient recruter des gens si on baissait les charges. Eh ben, tout ça a été fait, mais les recrutements n'ont pas eu lieu. Le meilleur exemple, c'est le CICE et le pacte de responsabilité, où on a offert 40 milliards de baisses de charges aux entreprises sans qu'il y ait le million d'emplois créés qui avait été promis. Il y a eu quelques dizaines de milliers d'emplois de créés. Les études même de France Stratégie montrent que les emplois créés ou gardés sont inférieurs à 100 000 emplois. Donc, il n'y a pas eu du tout les effets qu'on nous avait dit.
Et on se souvient du PINS que portait M. Gattaz, 1 million d'emplois, voilà, pour réclamer en échange des mesures qu'avait offertes le gouvernement Valls, enfin le gouvernement Hollande.
Exactement. Et aujourd'hui, les études montrent qu'il est très difficile de dire quelle était la part de ces mesures dans les créations d'emplois, qui sont en tous les cas extrêmement faibles, loin des 1 million qui avaient été promises. Et pourtant, malgré cela, on ne prend pas acte. Et ce que va faire Emmanuel Macron, c'est qu'il va encore baisser la fiscalité sur les entreprises. Je pense que dans quelques années, on sera à 15%. Puis bientôt, on sera tous comme l'Irlande avec un taux d'impôt sur les sociétés extrêmement faible.
Les baisses des cotisations patronales aussi sur les SMIC qui est pour le mois d'octobre. Ça, c'est aussi une des critiques du MEDEF qui voulait que ça vienne plus vite.
Exactement. Donc voilà, on donne comme ça des cadeaux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça crée des manques dans les recettes publiques. Et comment on fait pour rattraper ces manques ? Ben, on coupe de l'autre côté sur les dépenses sociales, on coupe sur le service public. Donc on offre encore aux Français moins de services publics. Et en plus, on reporte une grosse partie souvent sur la TVA, sur des impôts indirects. Alors si ça marchait, que ça créait des emplois, on comprendrait, mais ce n'est pas le cas. On a 1,5 million de chômeurs depuis la crise de 2008. On a fait beaucoup de réformes, ça n'a pas permis de redresser le tir. Donc effectivement, ils ont gagné la bataille. Clairement, ils ont gagné la bataille des idées. Et vous avez un certain nombre de gouvernements, et même de gauche, puisque c'était le cas de François Hollande dans la deuxième partie, qui ont cédé clairement aux desiderata des patrons.
D'où leur satisfaction dans les travées de l'université d'été du MEDEF.
Oui, d'habitude, on applaudit, comme ça. Chers amis, nous devons maintenant nous saisir de ces réformes pour les utiliser à plein. C'est notre responsabilité.
Bonjour. Enchanté. Alors, David Butet, président du MEDEF de Côte d'Or et évidemment entrepreneur avec 6 entreprises sur différentes activités.
Oui, bonjour Thierry Albernien, directeur économie du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes.
Comment tu vas ?
Ça va.
Bonjour. Eric Michoud, je suis directeur d'un groupe d'entreprises qui s'appelle Galilée.
Et vous voici présent à ce 20e anniversaire du MEDEF. Si je vous fais la liste des dernières mesures qui ont été prises, vous me dites si c'est bien ou pas. Il y a eu suppression des cotisations patronales sur les heures supplémentaires.
Oui, ben ça c'est bien.
Pacte de responsabilité, loi Macron, loi El Khomri.
Ça va dans le bon sens.
Ordonnance, loi travail, Macron.
Ça va dans le bon sens.
Fin de l'ISF.
Tout ça va dans le bon sens pour les entrepreneurs.
Flat tax, 30% sur les dividendes.
Même chose, je crois que vous avez fait une petite liste.
Le MEDEF a obtenu tout ce qu'il voulait du gouvernement.
Il n'a pas tout à fait obtenu tout ce qu'il voulait. Et on en demande quelques-unes d'autres, hein. On ne va pas s'arrêter là non plus, pour encore assouplir et encore permettre d'autres choses qui vont permettre d'avancer. Mais je pense que l'ensemble des entreprises ont gagné et l'ensemble des salariés ont gagné. Je ne sais pas si c'est les victoires du MEDEF, en fait, hein, c'est peut-être la victoire de la raison.
Mais en gardant quand même une certaine valeur qui consiste à dire l'entreprise, elle est quand même là pour gagner de l'argent. Parce que si l'entreprise ne gagne pas d'argent, elle ne joue pas son rôle et son moteur social et sociétal. S'il n'y a pas de gâteau, vous n'allez rien partager.
Je veux dire, c'est ce que disait un peu M. Macron, il faut déjà avoir un gâteau.
Oui, exactement. Tirer sur les riches, ça n'a jamais fait rendre plus riches les pauvres.
Si l'on veut partager le gâteau, la première condition est qu'il y ait un gâteau. Et ce sont les entreprises qui font ce gâteau. Et personne d'autre. Et il est mensonger de défendre les salariés si on ne défend pas les entreprises.
Moi, le mot entrepreneur, il m'est cher, puisque moi, j'ai pris tous les risques, j'ai tout mis sur la table, voilà, et entreprendre, c'est ça. Par contre, sur le mot salarié et collaborateur, j'entends par là qu'on ne peut plus voir l'entreprise en se disant ils vont rester 40 ans à cotiser dans la même entreprise et faire leur parcours. C'est pas possible, quel que soit le job, pour le coup.
Dernière question, il y a tout à l'heure là, il y a un groupe de manifestants qui ont promis de se retrouver à l'entrée du MEDEF à l'appel d'une intersyndicale en prônant la séparation du MEDEF et de l'État.
La séparation du MEDEF et de l'État, je savais même pas.
C'est-à-dire 100 ans après, la séparation de l'État et du clergé, on ferait la séparation du MEDEF et de l'État, puisque c'est devenu, on oserait dire, presque comme une religion. Soyons sérieux, il faut que les entreprises gagnent de l'argent. Gagner de l'argent n'est pas une mauvaise fin en soi. La véritable question, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on gagne.
Merci beaucoup.
Merci.
Je vous laisse filer.
Merci. Ça fait une petite photo, Marie. Ça fait une petite photo.
Avec plaisir, oui.
Genre, je fais le type important.
C'est pour le mur.
C'est, voilà.
C'est, bonne
journée.
À vous. Bonne journée.
Bon courage.
Au revoir. J'ai ma boîte. Et moi, je l'assume. J'ai ma boîte.
Thomas Porcher, vous. Mais ce modèle marche, je vois, parce que quand même la France a des réussites. Vous faites partie des critiques du bilan des différentes politiques libérales des dernières années. Mais pourtant, si on regarde par exemple la Tribune, que la France est le pays de le record des dividendes cette année encore, record mondial parmi les pays où les actionnaires touchent le plus d'argent, plus 23,6%, alors que la moyenne mondiale, excusez du peu, est de 12,9%.
Oui. Bah écoutez, quand vous avez un profit, qu'est-ce que vous pouvez faire de ce profit? Soit vous l'investissez, ce qui va souvent créer des emplois. Soit vous le redistribuez aux salariés, ce qui augmente le pouvoir d'achat. Soit vous le donnez aux actionnaires. Bon, aujourd'hui, on a fait clairement le choix d'en donner une grosse partie aux actionnaires. Les deux tiers vont souvent aux actionnaires. 30% vont à l'investissement de manière générale et 10% vont au salaire. Donc voilà. Donc il y a une volonté que les fruits du travail global bénéficient plus aux actionnaires qu'au reste de la population, ce qui est un véritable problème, ce qui n'était pas le cas dans les années 50. Dans les années 50, on était à des niveaux qui étaient en dessous de 50% en moyenne. Aujourd'hui, on est autour de 70%. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose de naturel. C'est que dans le rapport de force, il y a des gens qui ont gagné sur les autres. Et aujourd'hui, le salarié, c'est vraiment devenu un meuble. On peut le bouger, on peut le virer grâce au contrat précaire pour justement préserver cette part que l'on donne aux actionnaires. Donc voilà, on a fait ce choix-là. Et donc les profits se sont envolés. Les actionnaires n'ont jamais été aussi riches. Et puis de l'autre côté, il n'y a jamais eu aussi peu d'investissements et de problèmes de débouchés parce que les salaires sont compressés. Donc on est dans un système où vous avez une petite partie qui récupère la plus grande partie des bénéfices.
Alors je vais vous rassurer pour terminer, Thomas Porcher, c'est que même dans les allées de l'université d'été du MEDEF, quelques patrons et quelques visiteurs élevaient des voix dissidentes.
J'aime ma boîte, et moi je l'assume. J'aime ma boîte, et mon entreprise.
Bonjour, vous m'enregistrez là?
Non, si vous voulez.
Alors je vais vous dire très honnêtement, je ne suis pas du MEDEF, parce que je travaille pour des élus politiques de droite.
Ouais.
Donc je suis venu un peu pour voir ce qu'il faisait. Non, mais moi je travaille pour LR. Patrick, t'es un chef d'entreprise par contre.
On pensait avoir un nouveau président. avec une nouvelle énergie, mais non.
On ne croit pas au nouveau monde, on croit au monde qui évolue, nous. Ils pensent toujours que l'économie, ça passe par la satisfaction des patrons, mais je pense que quand les salariés sont heureux dans un pays, le pays marche mieux. Et qu'aujourd'hui, les salariés en France sont malheureux, ne sont pas heureux, on le sent. Il y a vraiment une vraie régression du pouvoir d'achat pour tout le monde. La mesure qui s'imposerait aujourd'hui, si Macron voulait changer les choses, c'est d'augmenter les salaires.
Mais ça veut dire moins de dividendes.
Ben c'est bien moins de dividendes.
Ouais. Investit tout de suite.
On le voit d'ailleurs, tous les chiffres que le disent. Pour les retraités, il y a une baisse de pouvoir d'achat. Pour les salariés, il y a une baisse de pouvoir d'achat. Ils ne trompent pas bien. Bon, c'est mon avis. Hein. Un salarié.
Je ne pense pas que ce soit un avis majoritaire ici au MEDEF.
Je crois que les gens du MEDEF sont des patrons plus extrémistes que les autres. Le MEDEF, c'est quand même la droite des patrons.
C'est la droite des patrons.
C'est le CAC 40, c'est les grosses boîtes. Toujours plus de dividendes, toujours plus de bénéfices, toujours plus d'avantages et la flexibilité pour les autres.
Mais dites-moi, excusez, je vous écoute là, je me demande si vous ne serez pas plus à votre place à la petite manif qui est à l'extérieur, qui dit « séparation du MEDEF et de l'État ».
Je les soutiens. Je les soutiens. Oui. Vous avez raison. Non, moi je ne suis pas pro-MEDEF. Hein. Je suis venu voir ce qui se passait. Non, on est de la droite sociale. On est des gaullistes, des vrais gaullistes.
Merci beaucoup.
J'appelle la population à la grève. Aujourd'hui, je lance un appel aux barricades.
Quand vous voyez quelqu'un comme Patrick Artus, qui écrit un livre « Quand les salariés se révolteront », le directeur de Natixis, c'est quand même quelqu'un qui a, je crois, soutenu Macron, plus ou moins, qui dit que ça a été trop loin. Une interview également d'Alain Minc dans Libération allait dans le même sens. Ces gens-là ont été des gens qui ont fait la promotion du libre-échange, la promotion de la mondialisation. Et s'ils vous disent aujourd'hui que ça va trop loin, c'est que la maison brûle. Voilà.
Les souffrances seront encore nombreuses.
La conclusion est là.
Il faut que le combat de rue s'engage partout. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible.
Je me demande, Guy, si en coupant leur gâteau, les patrons du MEDEF ont pensé à ceux qui n'auraient que les miettes.
En tout cas, comme nous sommes des journalistes équilibrés, comme Fox News, Fair and Balance, on aura bientôt l'occasion, après les 20 ans du MEDEF, de fêter un autre anniversaire, celui des 20 ans de l'association ATTAC qui lutte pour un contrôle citoyen des multinationales.
Et maintenant, on va partir sur les traces d'une grande dame, une héroïne populaire qui nous a quittés récemment. J'ai nommé Yvette Horner.
Maintenant, celle que vous attendez tous, pour son 19e disque, l'Oscar mondial de l'accordéon, Yvette Horner.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
L'accordéon a fait son entrée dans la classe populaire.
Et maintenant, l'Oscar mondial de l'accordéon, Yvette Horner.
Vous entendez au fond ?
C'était juste après les années de guerre.
Elle incarnait cette musique populaire française qui faisait danser, qui faisait rêver.
Près de 30 millions de disques vendus.
De Noël jusqu'à l'été.
La reine de l'accordéon.
Devenue la mascotte du Tour de France de cyclisme avec sa chevelure rousse et sa robe bleu-blanc-rouge.
Elle était unique.
Yvette Horner est morte hier soir à l'âge de 95 ans.
Il faut bien réaliser, Yvette Horner, elle vend plus de disques que Mireille Mathieu au sommet de la carrière de Mireille Mathieu.
Séquence nostalgie sur un air d'accordéon.
Elle incarnait une espèce d'image majuscule d'une identité de la culture populaire française.
Alors, c'est-à-dire que nous allons reprendre... Alors,
José, hein, vous en voulez de plus.
Seulement, est-ce que l'écho est définitif,
voilà. Ah oui, c'est de la mono, hein, c'est pas de la stéréo.
Ah oui, alors vous, parce que vous m'en mettez un peu plus.
Parce que c'est de la mono.
Hein, un peu plus d'écho.
Alors, je vous en mets un peu plus, d'accord, bon. Hein,
bon, merci,
Serge. José, vous voulez me donner un peu de guitare, voir.
Pour Yvette, la réverbe, c'est le rouge à lèvres de l'accordéon.
Radio Uz.
Rendre hommage à Yvette Horner à Uzest, au festival d'Uzest dit Esteyada de la Sarthe, la fête populaire des arts en Gascon, ça semble un peu surprenant. pour ce rendez-vous incontournable du free jazz et de la musique improvisée, créé il y a 41 ans par Bernard Lubat, grand pianiste, batteur, penseur et accordéoniste de génie. Mais c'était sans compter sur Radio Uz et ses ondes libres et ses reporters très spéciaux. Et la venue de Sylvie Gasteau, femme de radio, complice et dompteuse de son, qui fait des magnifiques reportages pour France Culture, pourvu que ça dure. Alors c'est justement sur le trace de cette autre figure du piano à bretelles, Yvette Horner, tout aussi géniale que Bernard Lubat, à sa façon, que l'on va partir. Yvette Horner, reine du Musette et du Tour de France qui nous a quittés le 11 juin dernier, paix à son âme, et qui est l'héroïne d'une série documentaire en 25 épisodes, diffusée sur France Culture en 2005, signée par Sylvie Gasteau et son ami Christophe Moniaud, saxophoniste de génie. Tiens, Bernard arrive sur son vélo, c'est le moment.
Ah, c'est pas mal quand même. C'est pas moi qui ai fait ça.
Bonjour Antoine, c'est Sylvie Gasteau. C'était pour te parler à la fois d'Yvette Horner, de Uzest. Je t'expliquerai quand je te rends direct. On va y arriver. Je te rappelle.
La Sylvie Gasteau, c'est une copine de France Culture qui avait fait toute une série, le Tour de France, avec Yvette.
Et c'était mon grand rêve, ça, de faire un jour le Tour de France sur une voiture, avec des moustiques et tout.
Eh, regarde, c'est pas beau, ça?
Ouais. Ah ouais. Un jour, j'aurai droit.
Au drapeau rouge.
Tu veux le mettre? Un peu manif.
Ouais, ouais. Génial. Oh, puis la photo. Deux, trois fois, on a joué ensemble. Avec la compagnie.
Alors raconte un peu quand même ta rencontre avec Yvette, Sylvie.
Ça a commencé par Christophe Moniaud. C'était au Salon de la Musique. On s'est retrouvés dans le salon d'Yvette parce que Christophe, il l'avait abordé au Salon de la Musique. Il lui a fait le baise-main, il en a fait des tonnes. Parce qu'il... Moi, ça me plaisait pas trop parce que Yvette, tu vois, elle avait la voix de Mireille Mathieu pour moi à l'époque. Puis après, j'y repense... Je me dis, mais c'est la Scheherazade de l'accordéon.
Elle est venue à Uzest alors, toi tu l'as rencontrée ici.
Oui, non, mais je ne sais pas si elle est venue à Uzest. Je sais qu'on a fait avec la compagnie du Bas, on a fait deux balles avec elle, ou trois. Elle est arrivée en Bentley avec un chauffeur. Et j'ai retrouvé le chauffeur sans la casquette sur scène, il jouait de la guitare. Et elle avait le bras dans le plâtre. Et elle voulait jouer que des sambas. Elle sautait sur le piano, elle voulait presque pas jouer de l'accordéon. Quoi.
J'ai appris l'accordéon. Et bien sûr, je dois dire quand même que pendant 3 ans, j'ai été dans une profonde tristesse en apprenant l'accordéon. Car pour moi, le piano, c'était un être cher. Et d'ailleurs, c'est toujours un être cher que j'ai dans mon cœur. C'est un amour qui ne mourra jamais.
Écoutez... Si on oubliait l'interview, 3 minutes. Que vous fassiez plaisir à vous, et par la même occasion à moi, il est derrière vous, 3 ou 4 notes pour le plaisir. Allez-y.
Ah.
Allez-y comme ça, tout simplement.
Comme ça.
Oui, oui.
Moi, je voulais te faire écouter le premier épisode parce que... L'impromptu Schubert, ça dure d'Yvette. 4 minutes.
Maintenant, c'est à toi, Yvette.
Viens écouter.
Et c'est avec la compagnie, là, derrière le générique.
Mi bémol. Quand on enlève les altérations, les dièses bémols, ben, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, ça vaut rien.
L'impromptu de Schubert. Vous vous souvenez un peu de l'air de l'impromptu de Schubert?
Sol, si, la, sa, fa, mi, ré, do, si, do, ré, mi, ré, mi, ré, mi, fa, 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 mi do bémol, do mi, la do, la sol, fi, sol, fa, ti, la sol, fa.
Voilà, un petit Schubert.
L'analyse du point de vue politico lacanien, ça peut être très grave. Ce que ça représente par rapport à la relation entre quelqu'un du milieu populaire et la musique savante. Voilà. Moi, j'ai appris la musique comme ça. Les conséquences de ça, c'est pas drôle du tout. Elle jouait super bien du piano. J'imagine ce qu'elle serait devenue si elle avait travaillé autre chose. Elle ne serait pas devenue Yvette Horner, une erreur, quoi. Parce qu'après, ils se sont servis d'elle comme une conne, quoi. On l'a foutu sur une voiture et pendant 20 ans... Alors ça fait du cynisme, je trouve. Parce que moi, quand je l'allais la voir, j'étais enfant, je la voyais sur sa voiture, elle n'était pas heureuse, hein, d'être pris pour une andouille. Mais elle avait que ça, quoi.
Bête de foire, quoi.
Ouais, bête de foire. Et sur scène, c'est devenu comme ça. Et c'est devenu aussi sa constitution psychologique. Alors à la place de devenir, elle est restée. Elle est restée congelée. Donc... ça me fait pas rire. Et je l'aimais beaucoup pour ça. Parce que j'avais pigé ça. Et qu'elle a pigé ça avec moi quand on a joué. Parce que si j'avais cru ce qu'elle montre, on n'aurait pas eu de relation. J'ai vu qu'elle ne montrait pas ce qu'elle est. Voilà. Pour aujourd'hui, ça suffira.
Maintenant, c'est à toi, Yvette.
Des blocs-notes Horner. C'est ma lecture poélytique de la problématique.
Les grandes histoires d'Yvette.
Tu viens ? Viens écouter.
Mon tour de France, premier épisode.
Moi, je n'aurais pas pensé à accompagner le tour de France, mais on m'a demandé si je voulais bien le faire. L'équipe. Le journal, l'équipe. Pourquoi pas ? Étant donné que j'avais épousé un monsieur qui était un brillant footballeur, et il m'a dit, voilà une bonne idée, voilà une bonne chose, c'est de faire le Tour de France. Première fois, je l'ai fait debout, les pieds sur le siège et le corps à l'extérieur, parce que c'est un toit ouvrant, la voiture est un toit ouvrant.
Donc là, dans la voiture, il y avait René.
Il y avait René qui conduisait.
Il y avait que René dans la voiture ?
Ah oui, ah oui. Avec les trépidations de la voiture, les arrêts autour, j'avais mes reins appuyés à l'ouverture là du toit ouvrant et à force, voilà que j'avais eu le dos, la colonne vertébrale, tout ça, noir complètement par les coups, par ces trépidations. C'était douloureux. J'avais du mal à continuer, mais j'ai quand même voulu continuer. Alors on a mis un coussin entre l'ouverture et mes reins. Ça n'allait pas, j'étais vraiment mal. J'ai quand même continué. Donc je l'ai fait pour les Vins de France, pour Carpano. Je l'ai fait pour la Suze. Pour la Suze, donc, ils m'ont donné une voiture. Alors la Suze m'a dit, mais non, il faut faire autrement. Alors je jouais sur le toit, ce n'était plus à l'intérieur, moitié intérieur, moitié extérieur, sur le toit de la voiture, sans sonorisation, sans plexiglas, mon corps était à tous les vents, la pluie. J'étais contente quand mon mari prenait de l'essence parce que ça me faisait un peu de repos.
Mais quand il prenait de l'essence, vous n'étiez pas sur le toit.
Ah si, si.
Vous n'aviez pas une petite trappe pour vous glisser dans la voiture ?
Il y a une chose, c'est qu'au départ du Tour de France, je suis sur le toit, au départ, et jusqu'à l'arrivée au Parc des Princes, sur le toit.
La Suze ! La Suze est l'ami de...
Allô ? Oui ?
Christophe ? Christophe Pognot ?
Veuillez laisser votre message après le bip.
C'est Antoine, j'essaie de te joindre. Tu me racontes un peu ta rencontre avec Yvette Horner. Rappelle-moi.
et l'énergie atomique. T'en as entendu parler? L'énergie atomique.
Je sais pas si comment je sais que les hommes peuvent tirer. Il y a la mitraillette d'abord, qui a un rouleau de pétard comme ça. Puis on tire comme ça. Puis après, il y a le pistolet qui fait pan. Le fusil qui fait aussi pan. Les grenades. Et la bombe qui fait. Et puis après, il n'y a plus rien.
Alors cette histoire d'Yvette Horner à Uzest, c'est quand même bizarre. Je l'ai demandé à notre ami Thierry Nebout, boucher charcutier de père en fils, et qui tient boutique sur la place du village.
Je lui ai fait un baisement, je me souviens, j'avais posé un genou à terre, je lui ai fait un baisement en lui disant, voilà, ça serait vraiment un honneur de partager une aventure musicale avec vous. Première fois de sa vie, je crois, hein. S'est lancé dans la musique improvisée lors de cette expérience-là aussi, parce que c'était une vraie musicienne, une profonde musicienne. Elle voulait être pianiste de tout son cœur et que son père ne lui a pas autorisé, en fait.
Thierry Nebout, personne par les mains vides, hein, du Zeste.
Non, personne par les mains vides. Il ne faut pas partir les mains vides du Zeste. Monsieur, bonjour. Yvette Horner est venu à Uzeste dans les années... la fin des années 60 et début des années 70. C'était organisé, des balles organisées par Michel Léglise, qui était président du club de foot à l'époque, et qui organisait des spectacles comme ça tous les ans pour Pâques. Parce qu'il faisait un grand tournoi de foot et compagnie, il clôturait son tournoi de foot par un grand spectacle et compagnie. Donc il y a Yvette Horner qui est bienvenue à Uzest avec d'autres accordéonistes tous les ans. Pendant 3-4 années, il a fait comme ça avec des accordéonistes de renom de l'époque. Je n'ai pas tous les noms, quoi. Donc j'ai la mémoire qui flanche aussi, mince.
Et tu l'as vu, toi, Yvette?
Aperçue parce qu'elle elle dormait chez Michel Léglise, qui était le boulanger à l'époque. C'est qu'il y a eu un avant Uzest. Uzest a été créé, a bougé et a vécu. Donc, il vivra encore après. Après nous, après tout le monde, Uzest continuera à vivre. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier nos anciens qui ont créé tout ça. Donc, voilà.
Charcuterie, boucherie, charcuterie. Ici, on fait l'andouille de père en fils.
L'andouille dans le civil, pas professionnellement.
Merci Thierry.
Allez.
Bon, allez, hop. Allez les gars, continuons.
Jeannette, juste une question. Je suis à la recherche du passage d'Yvette Horner à Uzest. Est-ce que tu te souviens?
Yvette Horner. Non. Ça me dit.
Parce que Bernard s'en souvient pas, mais il est trop jeune, Bernard. Mais Thierry Nebout, hein, le boucher, il se souvient qu'elle est venue et qu'elle a joué à la salle des fêtes. Ça, tu te souviens pas?
Non.
T'allais pas danser à la salle des fêtes?
Oh, si. Où il y en a eu des beaux orchestres avec le père de M. Léglise, là. Il y a sa mère encore, mais bon, elle va pas s'en rappeler. Elle est...
C'est Mimi, sa mère, c'est ça?
Oui. Peut-être que Jean-Marie, son fils, il est là, il vient d'arriver là.
Ah, c'est la maison à côté d'où est Jackie, là?
Oui,
de ce côté-là.
Oui,
d'accord.
Oui.
Bon, allez. Hélicoptère.
Bonjour, Jean-Marie.
Ah, bah, tu peux rentrer.
Je peux rentrer, d'accord.
Mais bon, bien sûr, quand même.
Merci, bonjour. Antoine, enchanté. On m'a dit que Yvette Horner était venue ici et que ta maman l'avait accueillie.
C'est ma maman l'a accueillie, c'est surtout mon papa. Ouais à l'époque. Ouais.
D'accord. Et tu te souviens, toi, t'étais né tu...
Ah oui, ouais. J'étais plutôt né. Ouais, j'avais 11 ans, 12 ans, je crois.
D'accord.
Ouais, il avait fait venir Yvette Horner, il avait fait venir Édouard Duleux. Enfin, il y avait pas mal de pointures qui étaient venues, Verschuren. Enfin, il y avait pas mal de. Il aimait beaucoup ça, lui, l'accordéon. Bon. Alors après, elle avait mangé, parce que tout le monde, quand il faisait venir des groupes ou des orchestres ou des gens un petit peu connus, ce qu'on appelle les stars, j'aime pas trop le mot, moi. Et c'est vrai qu'elle avait mangé, c'est ma maman qui avait fait à manger pour tout le monde, alors déjà, bon, ne sais pas si tu vois ce que c'est un petit peu le travail d'une boulangerie-pâtisserie, etc. Et en plus, il fallait faire manger Madame Horner. Mais Madame Horner, qui était très difficile, je n'aime pas ci, je n'aime pas là, je ne veux pas ci, je ne veux pas là. Oula, diable, je me souviens de ça. Alors que les autres, genre Édouard Duleux, très simple. Enfin, c'est pas qu'elle était compliquée, mais c'est qu'elle aimait rien, en fait, au niveau de la bouffe. Alors, c'était en 62, 63, 64, par là. Dans l'ancienne salle des fêtes, où je me souviens, on avait fait une extension de la salle des fêtes pour pouvoir contenir tous ces gens-là. Alors là, il y a du monde au Festival du Zeste. Mais diable, là, j'avais des voitures, j'allais dire presque ce qu'on appelle le coucut là-bas. Il y avait des voitures partout, sur toutes ces... Mais c'était inimaginable, quoi. On aurait presque garé dans le cimetière tellement il y avait de véhicules à garer, quoi. C'est impressionnant, le monde qu'il y avait, quoi. Hein. Comme quoi, il va tourner, attirer les foules. Voilà.
Il était au courant qu'il y a un hommage qui lui a été rendu.
Oui, j'étais pas loin de, je vous ai vu, j'ai vu avec une jeune
Sylvie
femme.
Gasteau, ouais.
C'est ça. Et j'ai bien écouté, et j'ai un peu participé. Et c'est là que j'ai dit à une jeune fille, ben moi, c'est Yvette Horner, elle est venue à Uzès. Ah oui, je sais, elle savait. Alors, elle savait pas qui il avait fait venir, mais voilà.
Donc c'était ton père.
C'était mon père à l'époque qui s'occupait, qui était président de l'Étoile Clémentine d'Uzès.
Le club de foot.
Le club de foot, oui, mythique, elle est 100 ans, là. Il avait commis cela à l'époque. Alors, c'était pas forcément très bien vu par tout le monde à l'époque, parce que ça amenait beaucoup de monde, ça allait mettre la pagaille dans le village. Enfin, c'était déjà un petit peu comme ça. Voilà.
Donc, ça guinchait déjà avant l'Estéiade.
Ah,
à Uzest,
ça, ouais. Ah oui, mais ça guinchait également avant qu'Yvette Horner vienne, puis ça guinchait aussi à l'Estaminet, puisque moi je me souviens, j'étais tout gosse, il y avait les cinémas à l'Estaminet qui étaient faits par un monsieur qui s'appelait Monsieur Fétique, et je me souviens de mon premier film que j'ai vu en noir et blanc, Cigarette, Whisky et Petite Pépée, avec Eddie Constantine quand même, à l'Estaminet.
Ouverture ce soir à 22h, Cigarette, Whisky et Petite Pépée.
Et Petit, on demande au téléphone.
Ça y est, c'est la fin du festival. C'est calme. Les rues du Zest sont calmes. Et maintenant, il faut penser à l'avenir, à la suite. Il y a eu un avant, donc, à la salle des fêtes, où ça guinchait déjà. Et l'après, ce sera quoi? Le mausolée, Bernard Hubbard, une transformation.
Salut, ça va?
Ça va. On est là jusqu'à samedi.
Ah, très bien.
Alors, quel jour t'es disponible?
Mais moi, je pars tout à l'heure, là.
Ah,
ouais,
d'accord.
Je rentre à Paris pour Radio France, quoi. Et là, moi, je suis sur les traces d'Yvette Horner.
Oui. Ah oui, on a vu ça. Ouais.
Donc, il paraît qu'elle a joué à Uzest.
Ah.
Ouais.
Ah, ça. C'est...
Dans les années 60.
D'accord.
Elle était venue à la salle des fêtes, en trois mots, hein.
Oui.
Et voilà, et du coup, on se pose aussi la question de l'avenir maintenant, de l'Estéiade, de
ah
l'Estaminet.
Bon,
bah oui.
Ah
bon.
C'est-à-dire
bah,
que
je sais pas.
La question se pose pour l'an prochain.
Bah pour l'an prochain et pour les suivants quand même. Que va devenir Uzest?
Bah oui, surtout qu'avec. Il y a eu petit clash là entre les jeunes et le pater. Hein?
Ouais, j'ai l'impression. Donc oui. Les jeunes n'étaient pas là cette année. Hein. Les jeunes pousses,
c'est ça.
Ceux qui s'appelaient Los Gouillats, donc les enfants du Zest, puis qui sont devenus maintenant le parti collectif, le PC, quoi, le parti collectif, un collectif d'improvisation à Bordeaux.
Ouais.
Ils n'étaient pas là cette année.
Oui.
Donc c'était les forces vives, la relève, ouais.
Voilà.
Ouais, la relève
ouais.
Qui n'est pas là. Donc voilà, ça pose question, quoi, s'il n'y a
oui,
pas de relève.
Là, ça pose...
On est devant l'Estaminet, là. Justement, sur le mur, l'artiste démolit la maison de sa vie pour, avec les briques, construire une autre maison publique, celle de son œuvre.
Ouais.
Alors, est-ce que l'Uzest est un bien commun? Uzest musical?
Ah, ça, c'est une question.
Ou ça appartient à quelqu'un, quoi?
Non, ça nous appartient tous, quand même. Parce que ce qui nous appartient, c'est ce avec quoi on travaille. Quelque part. Donc, puisqu'on y travaille tous ici. On travaille des ménages, on travaille, on fait de la musique et tout. Et donc, ça appartient à tous ceux qui veulent en faire quelque chose, qui veulent le travailler.
Ouais, mais une œuvre, il y a une propriété intellectuelle à une œuvre. Alors, il faut que ce soit du Creative Commons. Une œuvre, mais qui appartient à tous et qu'on peut se réapproprier et qu'on peut faire vivre différemment, autrement, parallèlement.
Oui. Ouais, là, c'est la question de l'artiste et de son œuvre. Et souvent, les artistes sont assez égocentrés. Ils veulent pas qu'on touche à leur œuvre. Et puis, si on fait quelque chose qui ressemble, ils vont gueuler. Alors que le processus de création, il est intertextuel, il est inter-œuvre. Et que, justement, c'est à partir de l'œuvre de l'autre qu'on construit la sienne.
Tiens, il y a Jean-René qui arrive là. Dis-moi, tu me mettras un peu de bas de côté ?
Ouais.
Hein ?
Pour toaster ou comme ça ?
Toaster, c'est bien, ouais.
Tu es au coupe en deux, c'est ça ?
Ouais.
Ouais. T'es pas pressé ?
Non, non, mais pour cet hiver, quoi. Merci.
Radio Uzes.
Uzest Musical, 41e Estellada de la Sarthe, du 10 au 18 août 2018. Théâtre à musiciens Les Staminets, n'entrez pas sans désir. Ça tombe bien. Bernard, on regardait à l'entrée, là, sur le mur hein, de Les Staminets, il y a cette phrase, alors déjà, tu vas me dire de qui c'est.
Milan Kundera. La maison de... Enfin, ma maison, c'est plus la mienne, quoi. C'est celle de ce qui s'y passe dedans. Elle est publique, quoi. Voilà.
Mais alors, Bernard, comment... Ça peut te survivre, et ça va te survivre, l'Estellade, l'Uzest musical.
Ben à partir du moment où on se pose la question, parce que si on ne se posait pas la question, il n'y aurait rien à survivre. Je suis, moi, qu'un exemple à ne pas suivre. En même temps, quand on dit « suivez ceux qui cherchent la vérité, mais fuyez comme la peste ceux qui disent l'avoir trouvée », c'est tout, quoi. Ça doit continuer. Parce qu'on est tous mortels, hein. Moi, je suis debout sur les épaules de Mozart, de Pierre et Paul, du charcutier d'avant, de Stravinsky, de John Coltrane, de mon voisin qui est mort la semaine dernière, etc. On est debout sur les épaules du passé, quoi. C'est pour ça que j'ai écrit cette année du passé, faisant table ouverte, offerte, quoi. Et que, il n'y a pas d'âge, quoi. Pour le métier de vivre. Voilà. Depuis 40 ans, finalement, je ne sais pas s'il faut faire l'addition, j'aime pas trop les additions, mais le nombre de d'artistes et de techniciens du spectacle qui se sont réveillés, révélés, cultivés ici et qui sont devenus, c'est devenu leur métier, leur œuvre, c'est devenu des ouvriers, c'est quand même pas mal. Hein. C'est ça qui compte, quoi. C'est ça qui compte et c'est ça qui doit continuer. Moi, ma disparition, ça sera triste pour moi parce que j'ai pas envie de disparaître comme tout le monde, mais ça sera un épiphénomène, quoi. Ce que nous faisons est bien plus fort que nous. Le geste musical, c'est un processus de réalisation qui est bien plus fort que nous. Voilà. Donc, cette année, vraiment, je l'ai senti, quoi.
Et Bernard et les jeunes qui n'étaient pas là cette année, ton fils comme le mien, hein, qui sont allés voir ailleurs, c'est quoi ? C'est pour mieux revenir, comme toi t'es parti aussi, pour mieux revenir et pour créer toute cette histoire ?
Ben j'espère pour nous, j'espère pour eux, j'espère que c'est une crise positive, quoi. Ils sont partis parce que, je sais pas, ils supportaient plus de... J'en sais rien, je sais pas. Je sais pas comment ça s'est enclenché petit à petit, cette séparation. Pour moi, c'est, je sais pas, pour toi, sans doute, comme père. Moi, c'est très douloureux. Mais, moi, je leur fais confiance. Voilà. Je leur fais confiance parce que ils ont appris beaucoup de choses ici et ils en apprendront beaucoup ailleurs. Et avec ça, ben, je sais pas ce qu'ils vont faire. Je sais pas ce qu'ils vont faire. J'espère qu'ils reviendront se travailler ici. Mais je pense qu'il faut qu'ils aillent se travailler ailleurs. Où on les connaît pas. Tu vois. Ça, c'est le bon côté positif. Après, la souffrance personnelle, et puis même en tant qu'amitié, quoi, en tant que relation humaine, moi, j'en ai pris plein la gueule, quoi. Mais bon, rien n'est parfait, hein, ici encore moins qu'ailleurs. Hein. Ni eux, ni nous. Tu vois, voilà.
Je suis d'ici d'en bas, d'ici d'enfance de là. Je suis d'ici d'en moi, d'ici d'en haut en bas. Je suis dissident en soi, dissident bouge de toi. Je suis dissident car, dissident rouge de moi. Je suis dissident envie d'en faire jazzer, dissident délire de désir, dissident larme, dissident dissonant, blues blanc. Dissident envie d'en faire fader, dissident redire le plaisir, dissident bas, dissident dissipant, bouche blanc. Je suis dissident bas, dissident trace de là. Je suis dissident droit, dissident freindre de là. Je suis dissident d'âge, dissident langue des bois. Je suis dissident gage, dissident gauche de toi. Je suis dissident fance, sauvagement tendre, dissident courir le désir, dissident larme, dissident Dixieland, blues blanc. Je suis dissident sans créolison, dissident s'offrir le plaisir, dissident bas, dissident dislaxant, bouge blanc.
Voilà, c'était une petite balade lacanienne pendant la 41e Essayade de la Sarthe. C'était du 10 au 18 août. Vivement la prochaine et pourvu que ça dure. Merci à toute la bande de Radio Uz, Didier, Aurore, Thomas, Juju, Clémence, à Sylvie Gasteau aussi d'être revenue à Uzest avec sa série documentaire Les Grandes Histoires d'Yvette qui a été enregistrée et mixée par Philippe Bredin et réalisée par Jean-Philippe Navarre pour France Culture. Un petit bijou en 25 épisodes, bientôt en rediffusion, on l'espère.
C'était comme un bruit qui court. Toutes les informations sont sur le site franceinter.fr. Laissez-nous des messages. Abonnez-vous au podcast et faites courir le bruit sur les réseaux sociaux que le bruit court. Juste après les infos, vous retrouvez Jean-François Gisèle et nous on se retrouve samedi prochain à 16h.